numérique, vivre à l'ère numérique, avec Bruno Patino et Éric Sadin. Le 9 février 1996, John Perry Barlow, parolier des Grateful Dead, prononçait une déclaration d'indépendance du cyberespace. En voici quelques extraits. Gouvernement du monde industriel, géant fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l'esprit. Je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. Dans notre monde, tous les sentiments, toutes les expressions de l'humanité, des plus vils aux plus angéliques, font partie d'un ensemble homogène de conversations globales informatiques. Dans notre monde, tout ce que l'esprit humain est capable de créer peut être reproduit et diffusé à l'infini sans que cela ne coûte rien. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé ? 26 ans se sont écoulés depuis ce flamboyant discours. 26 ans et plus rien n'est comme avant. Les écrans sont omniprésents, les modes de vie ont été bouleversés, les relations entre les êtres n'obéissent plus aux mêmes règles. Sous la direction des digital natives, tout le monde ou presque s'est connecté. Les vieux se sont mis à l'école des jeunes, les derniers réfractaires ont le sentiment d'habiter un autre siècle et de n'avoir plus rien à faire dans celui-ci. Cette grande transformation du monde demande à être pensée. Nous nous y essaierons aujourd'hui avec Bruno Patino et Éric Sadin. Président d'Arte, Bruno Patino, a publié « La civilisation du poisson rouge » et tout récemment « Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge ». On doit au philosophe Éric Sadin plusieurs essais sur le monde numérique dont l'ère de l'individu tyran et faire sécession une politique de nous-mêmes. Diriez-vous donc, messieurs, que l'utopie portée par le parolier des Grateful Dead, un homme nouveau dans un espace nouveau, se réalise sous nos yeux. Bruno Patino.
La réponse est quelque part dans la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous paraît un peu désuet, une telle chose. Moi, j'ai connu Perry Barlow. En fait, il était... On voit bien trois choses qui aujourd'hui, ont fait le deuil de trois aspects de cette utopie. La première, c'est que Perry Barlow était quelqu'un qui était très inspiré par Teilhard de Chardin et il était absolument convaincu que le numérique allait créer la noosphère, en fait. C'est-à-dire que c'était une possibilité de mise en commun des consciences individuelles, non seulement de l'information, du savoir, de la culture, du divertissement, mais même des consciences individuelles. Et donc, il évoquait, il avait beaucoup travaillé sur Teilhard de Chardin, et il évoquait cette perspective numérique comme une capacité d'arriver à un degré supérieur de conscience. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, c'était un libertaire, et donc, il était absolument persuadé que pour créer cet état supérieur de conscience, il fallait absolument que les États, les entreprises ou personne n'interviennent. Et donc, il était évidemment totalement à rebours de la logique aujourd'hui où on essaye de cadrer tout ça. Le troisième point qui me semble important, c'est que, comme peut-être tout Américain soucieux de voir des nouveaux fronts pionniers ouvrir, il imaginait un nouveau territoire. C'est pour ça qu'on appelle le cyberespace d'ailleurs, qui s'ouvrirait, mais qui serait, si j'ose dire, complémentaire à l'espace réel existant. Il n'avait pas prévu l'imbrication totale du numérique dans nos vies. Et donc, en ce qui me concerne, moi j'ai été évidemment très séduit par l'ensemble de cette utopie. Sur les trois points qu'on vient de citer, on voit bien que quelque chose s'est passé. Personne aujourd'hui ne pense qu'une conscience universelle est en train de se créer, mais se crée quelque chose, et donc il faut le savoir quoi. La deuxième chose, comme je l'ai dit, le territoire n'est plus autonome, c'est l'imbrication dans la société des données telle qu'elle existe. Et le troisième point, penser que l'autodiscipline, l'autorégulation, bref, le libertarisme pourrait imposer un ordre nouveau qui soit harmonieux, est évidemment quelque chose que personne aujourd'hui ne peut penser. Ça ne m'empêche pas de toujours croire à une partie très, on va dire, utopique de la nouvelle société numérique qui est en train de se créer. Mais en tout cas, je ne pense plus, comme Barlow, qu'il suffit de dire à tout l'ancien monde « bas les pattes » pour qu'elle se crée.
Éric Sadin.
Oui, d'abord, il me semble que cette utopie dont on a beaucoup parlé, elle est très gonflée. C'est-à-dire qu'elle a été diffusée par, je peux le dire, par un groupe extrêmement restreint de personnes assez exaltées, du genre de Barlow, hein, qui est une respectable, mais quand même qui appartient à une culture, une catégorie propre très identifiable, californienne, fondée sur un esprit effectivement libertaire et proprement américain de la nouvelle frontière continuelle. Et ça a permis de mettre en perspective, plus tard, le principe d'une grande utopie et le désenchantement. Il me semble que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que cela. Alors, ce qui est intéressant de commencer avec cette déclaration de 1996, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, il y a une histoire des technologies numériques connectées. Nous ne sommes plus en 1996, car il y a, à mon sens, quatre âges de l'Internet que je vais vous dire de temps, qui modifie la donne au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas, ça apparaissent des nouvelles modalités, des nouvelles interrogations et des nouveaux problèmes. Et toujours plus profond, c'est ça qui est très très marquant, et toujours plus à dimension civilisationnelle, anthropologique, et qui modifie des dimensions politico-juridiques. Alors je vais m'expliquer en quelques mots. Le premier âge, on va dire que c'est celui de Barlow, c'est-à-dire celui qui a été nommé à juste titre l'âge de l'accès, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir accéder depuis son ordinateur à l'époque à des informations toujours plus diverses et toujours plus croissantes, via des serveurs, à l'époque principalement textuels, après qui sont devenus sonores, iconiques et vidéos. Ça, c'est en gros, c'est l'âge de la massive expansion de l'Internet à partir de la fin des années 90. Et quelques années plus tard, est apparu un autre moment durant lequel a été identifiée une dimension qui apparaissait. C'est ce qui a été nommé le Web 2.0 à partir de 2005 et qui signalait le fait que les personnes n'étaient plus seulement spectatrices, hein, observer, liser, percevoir des textes, des images, mais étaient en possibilité technique et des dispositifs étaient offerts en vue d'intervenir, hein, par des blogs, d'intervenir de façon individuelle, par le tagage. On se souvient des premiers commentaires sur lesquels il y aurait tant à dire, par exemple au bas d'articles, tous les commentaires. Et évidemment, je pense à l'avènement des réseaux sociaux à partir de 2004 et 2006 pour ce qui est de Facebook et Twitter. Et seulement 2 ans plus tard, je fais une histoire très rapide mais qui est déterminante pour comprendre d'où nous venons et où nous sommes. 2 ans plus tard, apparaît un événement fondamental, décisif, surdéterminant, sur lequel nous continuons de vivre, et qui est 2007, l'iPhone. Les smartphones et l'iPhone intégrés. Une dimension sur laquelle nous continuons de vivre et qui a totalement modifié la donne, c'est les applications. Les applications qui supposent l'interprétation en temps réel des comportements et la recommandation, c'est-à-dire la possibilité pour des systèmes d'intelligence artificielle d'interpréter et de continuellement suggérer des services et des produits suggérés à chacun d'entre nous. Et cette logique-là extrêmement puissante, n'a cessé de se développer, n'a cessé de s'étendre, n'a cessé de se sophistiquer. Et je pense à deux systèmes, je ne veux pas être trop long, mais je pense à deux systèmes qui ont prolongé les applications. C'est l'assistant Siri, l'assistant numérique personnalisé, qui voulait que des systèmes continuellement nous guident, ce que j'ai appelé un guidage algorithmique de la vie. Et puis après, les enceintes connectées, c'est-à-dire des systèmes qui continuellement conversent avec nous, façon de parler, en vue de nous faire réaliser telle action plutôt que telle action. Et cela, c'est ce que j'ai appelé, entraîne principalement, un mouvement de marchandisation intégrale de la vie sans plus de limites. Et il me semble que ce point-là, on ne le voit pas suffisamment. Et puisque vous me faites un signe, je ne veux pas être trop long, mais le quatrième âge dans lequel nous commençons à entrer et qui ne cesse de mobiliser mon attention actuellement, je veux parler du métavers, hein, qui vient évidemment oui. Après les confinements et le Covid.
Les métavers avec les avatars, c'est ça.
Absolument, mais si vous voulez, on en parlera.
Oui, on en parlera. Mais je reviens une seconde à cette utopie. Parce que elle me paraît en elle-même terrifiante. Vous dites les choses ont changé, mais d'abord ce mépris épouvantable de l'ancien monde, bande de cons dégagés, c'est vraiment effrayant, pour une liberté sans limite, qui quand même s'exerce aujourd'hui sur Internet. Il parle aussi, John Perry Barlow, d'une conversation informatique, comme si effectivement il prévoyait déjà non seulement qu'on allait sortir de l'âge de l'accès pour entrer dans celui de l'échange, mais quelle violence dans cet échange. Et il le dit, les paroles les plus viles pourront s'exprimer à égalité avec les paroles les plus angéliques. Donc il prévoit aussi cette horizontalité définitive, cette égalité parfaite. Plus aucune parole n'a d'autorité, puisqu'on est sur le net, et chacun peut dire ce qu'il veut, s'exprimer comme il veut, etc. C'est un peu comme si, d'ailleurs, notre monde, c'était pas celui des valeurs démocratiques devenues folles. La liberté d'expression illimitée, égalité totale, et puis sur la fraternité, il y aurait aussi des choses à dire, mais ça concerne moins Internet. Donc, tout ça, je dirais pas que le verre était dans le fruit, mais quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mon Dieu, mais... quelle muflerie, quand même. Est-ce que c'est d'une muflerie pareille qu'on peut attendre le bonheur? Et puis, il y a toutes ces évolutions que vous dites, et dont certaines sont quand même très inquiétantes, Bruno Patineau.
D'abord, je pense qu'Éric Sadin a raison quand il dit qu'il faut recontextualiser Barlow vraiment dans un univers américain, californien, libertaire. Il faut bien voir que quand même, j'essaye d'en parler aussi, cette idée que les messages les plus vils doivent coexister avec les meilleurs messages, on retrouve ça chez Jeff personne, hein, quand il appelait au marché libre des idées, et dire finalement, quand une vérité et un mensonge se font face, la vérité finit par l'emporter. Je dis pas que c'est le cas, hein, je dis que il y a là quelque chose de profondément américain dans cette idée que la vérité triomphe du mensonge dans un marché libre des idées organisé, pour reprendre l'expression utilisée. Moi, je crois quand même les quatre âges de l'Internet qu'a énoncé Éric Sadin sont évidemment s'appliquent très fortement. Je pense que, malgré tout, dans la dérive que vous dites aujourd'hui, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une horizontalité parfaite. Je ne pense pas du tout qu'on soit dans une discussion non organisée. Je pense, et en tout cas j'essaie de raconter dans les livres, que les principes de discussion organisée, que l'on retrouve sur Twitter, Facebook ou autres, ce sont des discussions qui ne sont plus organisées. Là, je vous rejoins par un principe d'autorité de savoir, d'autorité morale ou d'autorité institutionnelle. Mais la conversation est organisée par des outils. Alors, on les appelle les algorithmes. Et un algorithme, c'est une simple formule mathématique qui organise les conversations afin que ces conversations soient les plus rentables possibles pour les applications. Je pense qu'une des parties de la dérive, elle est là. Elle est dans, non pas la technologie elle-même, moi je ne suis pas du tout technophobe, je ne pense pas que la technologie a produit naturellement cela, mais je pense que c'est l'alliance de la technologie et d'un modèle économique. Et je pense, j'essaie de le raconter dans La civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal, que c'est à partir du moment où ces grandes applications sociales qui mettaient les uns les autres en commun ont commencé à se rémunérer sur la publicité et la publicité ciblée, c'est-à-dire ce que je sais du comportement des personnes ou ce que je sais de leur identité. Donc elles sont rentrées dans ce marché de captation de l'attention, que l'organisation des messages a été faite de façon à promouvoir, accélérer et amplifier les messages qui attirent le plus d'attention. Et ce qui est accéléré et amplifié naturellement, économiquement parlant, c'est évidemment ce qui s'adresse aux tripes, à l'émotion, à tout ce que décrit d'ailleurs très bien Éric Sadin dans son ouvrage sur l'individu tyran. Et je pense que c'est ça qui est amplifié. Et donc quand aujourd'hui, et je termine là, vous faites une étude de ce qui se passe sur les réseaux, c'est très intéressant. Parce que si vous prenez quantitativement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous apercevez qu'entre 80% et 95% de ce qui s'y passe est, contrairement à ce qu'on croit, plutôt, j'allais dire, anecdotique. Les horaires d'ouverture de piscine, qu'est-ce qui se passe, etc. Plutôt amical, plutôt humoristique, sans grincer. Et si vous regardez après le deuxième niveau, ce à quoi vous êtes exposé, quand je dis vous, nous sommes exposés en tant qu'utilisateurs, on s'aperçoit qu'on est exposé en revanche à des messages qui sont beaucoup moins anodins que tous ceux que je viens de vous décrire. Et donc il y a une très grande différence, je raconte notamment au moment évidemment des messages anti-vax ou autres, il y a une très grande différence entre ce qui se passe sur le réseau, qui peut être le miroir d'une société qui n'est ni plus... ni meilleur ni plus mauvais qu'une société, c'est vrai sans autorité morale d'une quelconque nature, et ce à quoi nous sommes exposés. Et ce à quoi nous sommes exposés, c'est à une accélération, une amplification des messages les plus émotionnels et tripaux. Et donc je crois, si vous voulez, qu'une des parties qui nous font aujourd'hui craindre ce qu'est devenu l'univers numérique, c'est à cause de cette prégnance du modèle économique qui cherche à capter notre attention tout le temps. Je suis d'accord, 2007 c'était la révolution, c'est tout à fait exact. Et depuis 2007, cette prégnance de l'économie de l'attention nous accélère dans une conversation permanente qui est de plus en plus polarisée, comme on dit, et de plus en plus violente.
Éric Sanin.
Ce qui me gêne, c'est que trop souvent, depuis un certain nombre d'années, les modalités de préoccupation, critique, voire d'inquiétude, portent sur l'âge 1 et 2, qui continuent de se maintenir, qui continuent de se développer. Vous avez parlé de modèle économique, Bruno Patino, et de économie de l'attention. Alors moi, je me porte en faux contre cette notion. Enfin, l'économie de l'attention existe, mais elle n'est pas prépondérante. Ce qui est prépondérant, c'est ce que je nomme l'industrie de la vie. L'industrie de la vie, c'est-à-dire une architecture technologique qui permet de monétiser tous les champs de la vie. Alors, quelle est cette architecture technologique qui n'existait pas à l'époque de Barlow, en tous les cas, dans ses puissances, dans ses fonctionnalités actuelles qui n'ont cessé de se développer? Je pense à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, dont tant de Thierry Ferrer nous disent qu'on est en retard sur la Chine, sur les Américains, qu'il faut créer des hubs, faire de la France un hub de l'IA. Moi, je veux bien, mais je veux pas du tout, parce qu'on ne s'interroge jamais sur les conséquences civilisationnelles, sur les conséquences anthropologiques, sur les conséquences politico-juridiques, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Alors, l'intelligence artificielle, c'est le stade qui voit un changement de statut des technologies numériques. C'est ça qu'il faut saisir. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement destinés à la récolte, au stockage et à l'indexation et à la manipulation toujours plus aisée de l'information. C'est le cas, hein. Récolte, stockage, indexation et manipulation à diverses fins de l'information. Mais elles sont dorénavant destinées, leur mission, j'ai presque envie de dire leur fonction, de expertiser le réel à des vitesses infiniment supérieures à nos esprits humains. Par exemple, l'application Waze, qui a été rachetée par Google en 2005 à une société israélienne, expertise que j'utilise, hein, moi-même. Mais là, nous avons affaire à des systèmes d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqués, qui interprètent en temps réel des situations, l'état du trafic que moi je ne connais pas, que personne ne connaît avec une visibilité aussi élargie, et qui, en retour, suggère des recommandations, prendre plutôt tel itinéraire avec une évaluation de la durée.
Et pourquoi ça vous fait peur?
Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'en ce sens-là, l'intelligence artificielle est une instance à nous dire la vérité, à nous énoncer la vérité. Alors, je vais expliquer parce que c'est techno-anthropologique ce qui se passe là. Une instance à nous énoncer la vérité. Alors, pourquoi je parle de vérité? Parce que la vérité, à la différence de l'exactitude, c'est factuel. La chargée de communication de Donald Trump nous avait dit, après le 21 janvier 2017, lors de son intronisation, qu'il avait fait un temps merveilleux à Washington ce jour-là. C'est faux, il a plu. Hein, ce n'est pas exact, ce n'est pas une affaire de vérité. La vérité a toujours une dimension injonctive, avec des valeurs transcendantes qui supposent quoi de s'y conformer. Je pense par exemple à la vérité religieuse avec des dogmes. Pour ceux qui s'y conforment, eh bien, suivent telle loi alimentaire ou telle procéder, ou je pense à la vérité des parents qui disent à leurs enfants, il est 21h, il est l'heure d'aller se coucher. Et on s'y conforme en fonction. Et en cela, nous vivons ce que j'appelle le tournant injonctif de la technique, c'est-à-dire des systèmes qui, pour la première fois dans l'humanité, nous suggèrent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Et je l'ai analysé selon des niveaux où ça a lieu, et toujours plus coercitif, et qui toujours plus pose des problèmes civilisationnels et de société fondamentaux, mais qu'on n'évoque jamais, on reste toujours bloqué à 1 et 2. Et un premier stade que j'ai appelé le stade incitatif, c'est-à-dire aux individus, cette recommandation, les enceintes qui nous parlent. D'ailleurs, au moment où la technique nous dit la vérité, elle se met à parler, hein, c'est extraordinaire. Hein, c'est-à-dire c'est la pitié, hein, c'est une dimension oracle de la technique. Et cela, il faut voir la puissance que ça suppose. Là. Il y a une deuxième stade que j'ai appelé impératif, c'est-à-dire dans les champs de la société, des systèmes qui suggèrent d'agir telle façon plutôt que telle manière. Je pense par exemple au cabinet de recrutement, mais les exemples qui maintenant, les candidats dialoguent avec des chatbots et qui sélectionnent sur 200 candidatures, 2, 3, 4 candidats. Pour l'instant, l'humain est dans la boucle. À la fin, c'est un humain qui va décider, qui va être choisi. Mais là, ils disent la vérité, c'est-à-dire c'est ces 4 candidats qu'il faut choisir. Et puis, mais qu'en est-il, nous sommes en 2022, qu'en sera-t-il en 2030? Peut-être des systèmes qui vont décider, énoncer la vérité, c'est tel candidat qu'il faut. Et puis il y a un autre, cela étant à l'œuvre dans plein d'autres champs, et il y a deux autres stades, et je ne vais pas être trop long, mais j'y reviendrai peut-être, parce que c'est fondamental. C'est le stade que j'appelle, c'est facile, le jeu de mots est facile, c'est le stade prescriptif qui regarde la médecine, sur laquelle on dit tant de choses erronées sur les avancées que devrait connaître la médecine grâce au développement de l'intelligence artificielle. C'est totalement erroné, la plupart des choses qui ont été énoncées à droite à gauche. Et enfin, c'est moi le stade qui me pose le plus de préoccupations. Donc, c'est ce que j'appelle le stade coercitif, qui a lieu principalement dans le champ du travail, mais aussi dans d'autres champs, qui voit des systèmes guider l'action humaine.
Oui, alors, pas dans tous les systèmes de travail, mais vous citez notamment l'exemple des entrepôts d'Amazon, où l'employé a un casque dans les oreilles, on lui dit les tâches à accomplir, porter les paquets d'une zone à une autre, à des cadences infernales, et vous dites en effet que ce sont des robots de chair. Je pense d'ailleurs que le jour viendra où, comme les employés d'Uber, les employés d'Amazon se révolteront et iront devant la justice. Mais en vous entendant, Éric Sadin, je pense à cette phrase de Metternich qui, s'il en avait le choix, ne frissonnerait à l'idée de revenir sur Terre dans un millier d'années. Et maintenant, on se dit que peut-être que même dans 50 ans, on n'aurait pas forcément envie. Mais alors, parmi les nouvelles possibilités offertes par le net et les données qui sont accumulées. Vous dites dans votre dernier livre, Bruno Patineau, que lors de sa visite à Paris, Mark Zuckerberg a été pris en photo au comptoir d'un bistrot parisien. C'était pas Starbucks en réalité. Hein.
En fait, moi je l'ai rencontré la première fois à Starbucks, mais la deuxième fois quand il est revenu à Paris, c'était une blague d'un internaute, mais qui était très drôle, pour montrer le côté intrusif des données de Facebook, puisqu'on voyait Mark Zuckerberg, soi-disant, hein, évidemment c'était une blague, mais il était vraiment pris en photo, répondre au serveur qui lui demandait ce qu'il voulait, lui demander quelque chose, et dire, et pour mon voisin ici Patrick, il ne connaissait
pour
pas...
Pour moi, ce sera une bière, et pour Patrick, à côté de moi, qui a 26 ans, sort tout juste du bureau où il vient de se disputer avec son chef, une pizza végétarienne, comme d'habitude, avec un coca zéro. Attention, il est allergique aux olives et n'aime pas la cuisine trop salée.
Oui, donc
voilà, c'était l'œil de Facebook.
C'est l'œil de Facebook, oui. Moi, encore une fois, j'essaye de raconter tout ça. Je suis parti dans tous ces livres à la fois de réflexion et d'observations faites à travailler aussi dans l'univers numérique. Je voudrais revenir sur ça, c'est-à-dire que à un moment donné, dans Tempête dans le bocal, j'ai l'impression que l'univers numérique dans lequel on est aujourd'hui, c'est effectivement la tentation du calcul permanent, donc que nous soyons toujours calculés, ou du calcul intégral plus exactement, et du jeu permanent, parce que je pense quand même qu'on a une gamification du monde. Et que, si vous voulez, moi je me souviens, je raconte encore de l'inventeur de Netscape, Et qui disait, avant même d'inventer Netscape, 2 ans avant, Jim Clark, il s'appelait, il annonçait le fait qu'à un moment donné, nous serions tous plongés dans un jeu vidéo. Pour lui, ce qui était la civilisation qui s'annonçait, était une civilisation du jeu vidéo dans laquelle on allait se mouvoir.
C'est le métavers.
C'est extraordinairement prémonitoire.
C'est très prémonitoire.
Et donc ça doit dater de 1993-94. C'était extraordinairement prémonitoire. Et c'est-à-dire que Moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a évidemment aujourd'hui la pop culture fait référence toujours à ces deux films. Oui. Sortie de romans que sont d'un côté Minority Report, où vous pouvez être calculé en permanence et on peut vous enfermer pour un crime, non pas que vous avez commis, mais que vous allez commettre, hein, suivant vos données comportementales, et Ready Player One, où vous êtes plongé dans un jeu vidéo permanent. Donc oui, on peut avoir cette vision-là comme un univers extrêmement sombre. Je crois malgré tout, si vous voulez, que sans doute de façon plus optimiste ou plus modérée, évidemment qu'on y va naturellement vers ça. C'est-à-dire, mais je regarde aussi, je crois, moi, à la politique, aux êtres humains, etc. Et je crois quand même, je vois aujourd'hui toutes les tentatives pour limiter la zone de calcul et aussi limiter les moments du jeu, si j'ose dire. Je pense, si vous voulez, qu'évidemment, le numérique nous plonge dans... Moi, je ne pense pas que ça soit la vérité. Je pense que ça nous plonge dans ce qu'on appelle le nudge aujourd'hui. Vous savez, le nudge, c'est qu'on essaie de dicter vos comportements. Et je pense que le gouvernement du nudge, si j'ose dire, il va bien au-delà de l'univers numérique. C'est-à-dire que moi, je constate qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'univers où nous sommes, on n'essaye plus de nous convaincre de faire quelque chose, on essaye de dicter nos comportements.
Mais là, vous vous rejoignez.
Oui, je le rejoins totalement.
Oui, mais j'ai quand même une objection. Dicter nos comportements, nous sommes des êtres calculés, peut-être, mais ça semblerait instaurer une société de surveillance, en effet, très inquiétante. Mais il y a un autre aspect, l'individu tyran, ce titre le montre bien, c'est-à-dire, ça satisfait quelque chose.
De pulsionnel, oui,
ou de pulsionnel. Alors, j'avais relevé naguère une phrase du sociologue allemand Wolfgang Sofsky. Le désir d'être quelqu'un a depuis longtemps pris le pas sur le sens de la vie privée. Et ça, c'est une mutation anthropologique qui personnellement me fascine. Vous citez dans votre livre Freud. Éric Sadin, le besoin pulsionnel de se faire valoir. Ceux qui, à chaque fois qu'ils vivent un moment particulier, ne peuvent se retenir, justement, de le faire savoir. Facebook, un anniversaire, des vacances, des livres lus. C'est extraordinaire. La vie privée, c'est une valeur inestimable. Pour vivre heureux, vivant caché, et maintenant, c'est pour vivre heureux, vivant montré. L'âge de l'accès, en effet... Quelque chose lui succède, vous dites l'âge de l'excès, Éric Sadin, je me demande si c'est pas aussi l'ère de l'affichage. On s'affiche absolument partout. C'est-à-dire, au lieu de fermer les rideaux protecteurs, grâce au net, on les ouvre. Mais de cette mutation anthropologique, les individus sont partie prenante, c'est ce qu'ils veulent, ça va très au-delà, c'est autre chose qu'une société de surveillance. Nous sommes calculés, mais en même temps, nous voulons, enfin, ils veulent, parce que pour le moment c'est pas mon cas, se montrer absolument dans même ce que leur existence a de plus trivial ou de plus intime. Et ça, je trouve que ça a quelque chose de stupéfiant. Éric Sadin.
Oui, bien sûr, on peut dire que la pudeur est une dimension qui a reculé.
Voilà.
Et le fait est que l'expérience aujourd'hui quotidienne est presque considérée comme pauvre si elle n'est pas exposée au moment même où elle se vit. Là, il y a des conduites qui se sont laissés aller à un piège du génie de l'industrie du numérique. Parce que Bruno Patino a dit plusieurs fois un modèle économique. Moi, je reviens à cela. C'est-à-dire, évidemment, après, en tous les cas dans mes ouvrages, après avoir analysé l'évolution des technologies numériques depuis plusieurs ouvrages jusqu'à l'intelligence artificielle, ce que j'ai appelé la siliconisation du monde, était venu pour moi le moment d'analyser l'impact sur nos psychés individuelles et collectives et les effets sur la société et nos comportements. Alors évidemment, je parle des réseaux sociaux, entre autres, et des nouvelles images et de nouveaux positionnements de soi que ça donne, notamment ce que j'ai appelé la primauté de sa propre parole, via des interfaces particulières qui privilégient les formules courtes, l'assertion définitive, et qui font que nous n'avons en aucune affaire à une agora, mais plutôt à des systèmes qui ont encouragé, en tout cas, la brutalisation des échanges publics.
Alors ça, c'est très intéressant. Oui. Brutalisation, hystérisation. C'est comme si le progrès technique allait de pair avec une sorte de décivilisation, avec un processus de décivilisation. Une alliance étonnante, justement, de la sophistication et de la brutalité.
Alors, je le pense pas. Je pense que c'est plutôt la connaissance des comportements. C'est-à-dire ce dont a usé l'industrie du numérique, une partie de son génie, c'est la connaissance de la psyché humaine. Et notamment, quand on parle d'industrie, vous en avez parlé, le besoin de reconnaissance profondément humain, mais aussi le besoin de paresse. J'ai lu une étude sur le cerveau, il y a 5 dimensions capitales, et notamment celle de faire le moins d'efforts possible. Alors je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, parce qu'à quoi avons-nous à faire dans ce modèle économique? Moi, je veux bien, j'ai écrit un livre en 2009 qui s'intitulait « Surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle », mais c'était en 2009. Et je pense que nous n'avons C'était après le mouvement de numérisation toujours plus intégrale et expansive de nos existences, qui fait qu'on diffusait des données et qu'il y a une économie de la compréhension, de l'interprétation des comportements. Et puis c'était après 2001, où il y avait une hubris du renseignement qui voulait saisir tous les comportements jusqu'à une dimension anticipative. C'est pour ça qu'après, très vite, j'ai vu qu'il y avait des systèmes qui voulaient anticiper ce qu'allait se passer.
Ah, c'est Minority Report.
Absolument, absolument. Et le génie de Philip K. Dick. Alors pourquoi je dis cela en quelques mots? C'est parce que on a parlé d'un capitalisme de surveillance. Mais moi, je ne crois pas du tout que nous avons affaire à un capitalisme de la surveillance. Nous avons affaire, puisqu'on parle de paresse et de propension humaine à faire le moins d'efforts pour obtenir un acte, pour obtenir une satisfaction, nous avons affaire à un capitalisme de l'administration de notre bien-être, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que cette économie de l'intelligence artificielle et cette économie des capteurs, c'est-à-dire de cette architecture technologique où de plus en plus de gestes de notre vie quotidienne sont interprétés et qui voient des systèmes recommandés en continu jusqu'au sommeil, c'est-à-dire des bandeaux connectés, hein, donc qui évaluent au matin la qualité de notre sommeil selon des critères dont on ne sait absolument rien et qui, en fonction de la courbe évolutive de notre qualité supposée de notre sommeil, nous propose de prendre tel produit de complément de bien-être ou d'aller telle cure à la montagne, et qui voit que ces start-up qui proposent ces systèmes vendent des mots-clés à des sociétés qui sont intéressées par des produits supposés en rapport. Mais c'est cela à quoi nous avons affaire, c'est-à-dire avec notre assentiment, une industrie qui de plus en plus veut coller à nos existences, qui nous entoure de signaux et qui continuellement nous engage à opérer telle transaction plutôt que telle transaction marchande. Et ce mouvement, pour terminer, a été fortement engagé à partir du début des années 2010 par un phénomène économico-industriel déterminant qui a fait tourner la tête à tous les dirigeants et tous les responsables politiques du monde, que moi j'ai décrié très tôt, aujourd'hui on le voit avec beaucoup plus d'ironie, mais que j'ai décrié très tôt et je me suis pris beaucoup de volets de bois vert, c'est ce que j'ai appelé la start-upisation du monde. C'est-à-dire, en 2010, tout devait être soumis à une économie de la start-up. Et c'est quoi la start-up? C'est transformer les données en services ou en produits, tout transformer en marchandisation de la vie et en vue de nous proposer continuellement un confort supposé de notre quotidien. Non. C'est ça le modèle. Quand vous intitulez votre émission, Alain Finkielkraut, Vivre à l'heure d'Internet, c'est aussi ça, vivre à l'heure d'Internet. C'est des spectres qui continuellement nous entourent et nous disent, tiens, il faudrait que tu engages tel geste plutôt que tel geste, ce que ferait la Google Car, par exemple, qui nous piloterait, mais alors c'est le cas de le dire, qui nous piloterait non seulement de Paris à Strasbourg, par exemple, mais continuellement nous dirait, on va s'arrêter à telle pharmacie, vous avez l'air fatigué, on va s'arrêter à tel relais château ou tel routier, selon votre budget. Oui, c'est ça, le modèle économique.
Administration du bien-être plutôt que société de surveillance, d'où la complicité des individus.
Oui, mais si
Bruno
si
Patino,
par
Bruno
exemple,
Patino.
Sur le modèle du Google Car, c'est très intéressant, parce que on peut, moi, je suis pas en désaccord profond avec Eric Sadin, mais je suis peut-être plus modéré. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des forces d'un côté.
C'est étrange, on est souvent plus modéré que moi.
Et des forces dans l'autre sens. Si vous prenez la Google Car, c'est très intéressant. Donc, à un moment donné, vous dites une voiture autonome. Ok, elle va effectivement vous conduire, hein, et décider quand elle s'arrête ou pas. Et puis, évidemment, comment vous allez programmer cette voiture autonome? Et une histoire intéressante, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'au début, les ingénieurs Google ou autres n'y pensent pas. Et juste un professeur du MIT met au point une petite machine intéressante qui s'appelle la Moral Machine, où il soumet à tout utilisateur les questions que doivent se poser pour la programmation de l'algorithme. Par exemple, est-ce qu'un algorithme d'une voiture autonome doit avoir comme priorité sauver la vie du conducteur ou faire un calcul de essayer d'avoir le moins de personnes possible dans un accident? C'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans certains cas, s'il faut sauver la vie du conducteur, on pourra écraser deux piétons qui traversent au vert, même si c'est deux enfants. S'il faut avoir une vision un peu plus morale de la vie, on préférera emmener le conducteur dans le poteau et sauver les deux enfants qui traversent la rue. Et donc c'était très intéressant parce que tout d'un coup, nous nous sommes tous vus confrontés sur, j'allais dire, la dimension politique des algorithmes. C'est-à-dire qu'une chose, c'est de dire on détermine le comportement, on nous dicte nos comportements, c'est tout à fait vrai. Mais je pense qu'en revanche, l'opacité sur les règles de les encouragements à nos comportements, cette opacité-là est en train de tomber. Je regarde un peu partout, je vois que c'est devenu un vrai débat politique de dire comment décide-t-on de programmer les algorithmes. Et donc comment décide-t-on pour ces voitures autonomes, à un moment donné, de les programmer? Parce qu'on s'aperçoit, juste pour terminer sur ces voitures autonomes, qu'un conducteur et c'est là où l'espèce humaine a beaucoup de noblesse, dans 80% des cas, il préférera aller dans le poteau et potentiellement se tuer lui-même plutôt que d'écraser les deux enfants. C'est-à-dire la dimension humaine profonde de qui va au-delà du calcul individuel, alors que c'est quelque chose, une décision qui sera prise en moins d'une seconde par un conducteur dans la voiture. Et donc à quel moment on décide de programmer de telle ou telle façon, et est-ce que ce sont les États qui décident, les utilisateurs ou autres? Et donc je pense que moi s'ouvre un champ extraordinairement important en ce moment, et qu'il vient de s'ouvrir sur justement décider quelles sont les règles morales, éthiques, de programmation des algorithmes comportementaux. Donc oui, on est menacé par le calcul permanent, je suis entièrement d'accord, je l'écris aussi. Oui, ça cherche à nous dicter nos comportements, mais j'allais dire, les principes de ces comportements-là, qui étaient totalement opaques, ou, pour certains cas, totalement dicté par un modèle économique, qui peut être l'attention d'un côté ou d'autres modèles économiques de l'autre, eh bien, ce débat-là, je trouve que ça s'ouvre dans l'espace public, et c'est ce qui me rend peut-être moins pessimiste ou moins noir qu'Éric Sadin.
Alors, mais ne faut-il pas aussi ouvrir le débat sur la place donnée à Internet dans tous les lieux? Vous avez dit, Éric Sadin, que il y avait aussi, qu'on calculait aussi une volonté de paresse. C'est ça,
hein? On exploitait.
On exploite la paresse. Alors, c'est très intéressant.
On monétise
la paresse. J'ai trouvé cette expression fascinante parce qu'il y a un lieu où le numérique a pénétré. C'est l'école. Alors là, notre président de la République parle d'une école du futur, sans s'interroger sur les dégâts éventuels que le futurisme a déjà causés dans l'école. J'ai sous les yeux un livre, Le désastre de l'école numérique, qui n'est pas écrit par deux technophobes, comme on aime à dire, Philippe Biou, qui est ingénieur, Karine Mauvilly, qui est juriste. Et ils disent leur inquiétude, et notamment la fin de la promotion de l'effort. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Face au découragement des élèves, au décrochage, etc., on veut rendre l'école plus ludique, l'enseignement plus fun, et la tendance de fond est à la gamification. Tendance aussi au multitasking. Et voilà, quand un enfant fait ses devoirs sur un écran, des tas de possibilités s'ouvrent pour lui, possibilités de distraction. Là, vous parlez d'économie de l'attention, Bruno Patino, mais l'attention est le but suprême de l'éducation, répétait Simone Veil, et l'attention est mise en péril par la distraction permanente qu'offrent les écrans. Alors n'y a-t-il pas des lieux? Il faut discuter, il faut débattre de l'utilisation des algorithmes. Évidemment, vous avez raison, mais il n'y a-t-il pas des lieux qu'il faut impérativement déconnecter et débrancher sans se laisser prendre au mirage de l'école du futur? Expression qui me laisse un peu pantois, je dois dire.
Alors, moi, je crois que débattre des algorithmes, c'est les chiens à bois, la caravane passe. Je veux bien puisse être corrigé avec cette affaire de transparence des algorithmes. Je pense qu'on est dans une sorte de fiction, de perspective possible. Je vais m'expliquer. J'ai parlé par cette architecture technologique qui est en place depuis une dizaine d'années par l'intelligence artificielle et les capteurs, que le premier effet majeur, c'est le mouvement de marchandisation intégrale de la vie qui engage un nouveau stade du capitalisme, ce que j'ai appelé avec d'autres le technolibéralisme, mais qui engage aussi autre chose, cette architecture technologique. C'est un mouvement d'hyper-rationalisation, d'hyper-optimisation de la société et de nos existences. D'ailleurs, je renvoie, ça relève pas du hasard, on évoque peu cela, moi je l'ai évoqué dans mon livre qui s'intitulait La vie algorithmique, qu'une des grandes figure tutélaire avec Alan Turing de l'histoire de l'informatique historique, c'est Charles Babbage, c'est-à-dire ce mathématicien qui, au début du 19e siècle, a inventé des systèmes, cherchait à inventer, à concevoir, il n'a pas pu les construire, les élaborer, des systèmes computationnels autonomes, comme des grandes machines à calculer, dont il y a des modèles reconstitués au Musée des Sciences à Londres, c'est vers 1830, et qui a écrit au même moment, et c'est sur les manufactures, qui a énoncé le premier modèle pré-fordiste de l'usine moderne, hein, c'est-à-dire rationalisation, le calcul, rationalisation des modes de managériaux. Là, nous avons affaire à une dimension majeure de notre contemporanéité, vivre à l'heure d'Internet, du numérique. C'est revisiter, critiquer, exposer, il serait bien qu'on les expose, que ça sorte du champ clos de l'entreprise, les modes managériaux qui se mettent en place. Je vais venir dans quelques instants à l'éducation, hein. Mais là, ce sont des modalités majeures qui voient des systèmes déterminer les actions à entreprendre, qui voient des systèmes évaluer les actions et qui encouragent ensuite toute une série de chronologies d'actions et par effet comparatif à mener. Donc une sorte de, là, pour le coup, c'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais qu'on peut utiliser, déshumanisation du travail selon des nouvelles modalités, dans lesquelles nous avons affaire, par exemple, tout ce que j'ai dit là, évaluation, prescription sur une chronologie des actions à mener, comparaison, on l'a dans Uber. Sans parler, vous avez évoqué, ça, je crois que je me répète sur ça dans chaque livre, et je continuerai, par exemple, les entrepôts Amazon, l'abjection et l'indignité contemporaine, aujourd'hui, elle a lieu dans les entrepôts Amazon, qui voient des systèmes d'intelligence artificielle qui résultent directement de ce qui a été nommé innovation numérique, moi je mets des guillemets à chaque fois, qui a été célébré au cours des années 2010, mais par tous les responsables politiques, par tous les think tanks, par tous les centres de formation. Innovation numérique comme si c'était l'horizon du capitalisme lumineux et indépassable de notre temps, sans saisir les conséquences civilisationnelles. Et là, nous avons une des conséquences civilisationnelles. Nous en avons une autre dans l'éducation, qui voit quoi? Qui voit... À quoi avons-nous affaire? C'est ça aussi que j'ai nommé la siliconisation du monde. Nous avons affaire à une puissante doxa, très puissante doxa, qui veut qu'il fallait tout transformer, la transformation digitale de tous les champs de la vie. Hein. Alors c'est le travail, c'est l'éducation, je vais vous dire dans quelques instants, c'est la santé, c'est tous les champs de la vie. Hein. C'est presque la baguette de mon boulanger, il faut qu'elle subisse une transformation digitale. Alors, c'était une sorte de rhétorique généralisée qui était de l'ordre de... presque du dogme que j'ai critiqué, parce qu'il me semblait qu'on ne focalisait que sur, on ne se souciait que de la croissance économique, sans voir les conséquences civilisationnelles. Et dans l'éducation, par exemple, je renvoie à Najat Vallaud-Belkacem durant la présidence de François Hollande, qui a accueilli à bras ouverts, en 2015, Microsoft, dans l'éducation, pour développer des systèmes. Je vous demande ce que Microsoft a comme compétence dans l'éducation. Et je me souviens très bien de François Hollande, qui, en 2014, avait dit... sans étude d'impact, sans évaluation préalable, sans concertation avec les professeurs, qui avaient dit, à partir de la rentrée prochaine, donc en 2015, les choses se sont pas passées comme ça, doxa.
Mais la présidente de...
Et il avait dit, il y aura tous les étudiants, tous les collégiens à partir de la classe de 5e auront une tablette numérique. Oui. Et moi, j'avais écrit aussitôt une tribune dans Le Monde, dans Libération, celle-ci, qui s'intitulait « L'ineptie des tablettes numériques à l'école », où je parle de la parole d'autorité, je parle du clic ininterrompu via les tablettes. Et surtout, qu'est-ce que ça suppose? Je terminerai sur cela, point capital, c'est que l'éducation, et on aura ça encore davantage avec le métavers, avec ce qui s'est passé avec le Covid, c'est-à-dire l'enseignement à distance, le point principal de cela, c'est une autre objection, mais une autre objection qui porte un nom, je vais vous le dire. C'est la personnalisation des programmes. C'est-à-dire, quand Hannah Arendt dit que apprendre, à juste titre, c'est se défaire de soi-même. Vous connaissez cette phrase magnifique de Michel Foucault
Se déprendre de soi-même,
dans Les mots et les choses. Hein.
C'est-à-dire, l'histoire de la sexualité.
C'est l'histoire de la sexualité.
Oui, oui.
Se déprendre de soi-même. L'extériorité qui nous modifie, qui nous défait de nos a priori, de nos préjugés. Là, le principe est de cliquer continuellement pour aller vers un mode d'éducation qui nous renvoie à nos croyances, à nos confirmations ou à notre catégorie sociale. Abjection éducative, abjection civilisationnelle, et cela est encouragé par les ministères. Alors, pour terminer, je dirais que si ces personnes-là, les professeurs, je l'écris dans mon dernier ouvrage, étaient allés dans la rue pour manifester, qu'est-ce qui se serait passé à l'Infikelkraut? On aurait dit, ce sont des ringards.
Ah, ça c'est sûr.
En revanche, ce que je crois, moi, en modalité de critique, c'est qu'il est temps de passer à l'action plutôt que de débattre sur les algorithmes. Les professeurs, en tout cas, et moi j'avais reçu, quand j'avais écrit des textes, notamment cette tribune, on m'avait dit, oh là là, Eric Sadar met en cause, il est paniqué que l'autorité des professeurs soit... Mais j'avais reçu plein de témoignages de professeurs. Si cela... Et on aussi s'organiser en société. C'est ça qui nous a manqué au cours des années 2010. Et plutôt que d'aller manifester, se serait dit, on s'interpose, c'est-à-dire ce que j'appelle des logiques d'interposition, on n'en veut pas de vos tablettes, parce qu'elles bafouent nos principes, elles bafouent ce que nous croyons comme fondamental dans le principe de l'éducation, nous n'en voulons pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est par une autre ruse de l'histoire, les tablettes, un jour j'allais dans un conseil général en Charente-Maritime, un an plus tard, on m'a dit, vous savez, monsieur Sadin, les tablettes qu'on a achetées, elles ont coûté une fortune, elles sont toutes dans les caves de... parce qu'il n'y a pas une formation, et tant mieux.
En tout cas, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a offert aussi des tablettes aux élèves des collèges et des lycées. Je ne sais pas combien de professeurs s'en servent et combien de professeurs en mettent dans les caves. Bruno Patineau, vous voulez dire quelque chose ?
Je vais être toujours beaucoup plus, en tout cas pragmatique. Moi, je suis absolument convaincu que la maîtrise de la connexion est quelque chose d'absolument essentiel. Et je suis absolument convaincu que pendant un cours, on n'a pas à être connecté. Voilà. Et moi, j'enseigne aussi et je vois à quel point la question, le questionnement de la connexion. Et on mélange, à mon avis, deux choses. On a mélangé deux choses ou trois choses dans l'approche numérique de l'école. La première chose, c'est est-ce que les étudiants doivent disposer d'un outil numérique ? C'est une évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accès au savoir, aux ressources ou autres passe par cet écran-là. Et il est absolument essentiel qu'il y ait une sorte d'égalité, de possibilité pour l'ensemble des étudiants d'avoir recours aux ressources numériques. Je pense par ailleurs qu'aller chercher des ressources sur le numérique, ça demande aussi un effort et que ça s'apprend. Et qu'il faut apprendre aux étudiants, comment justement aller chercher du savoir, de l'information. La deuxième chose, pardon, je vais être très rapide, mais là aussi un peu pragmatique, si vous voulez, je crois par ailleurs qu'il faut apprendre aux étudiants ou aux élèves justement qu'il y a des moments, des temps et des lieux sans connexion, qui ne sont pas seulement l'école, mais d'autres lieux. Et que apprendre cet univers-là, c'est-à-dire apprendre la surexposition aux images ou ailleurs, est quelque chose d'absolument essentiel. Maintenant, en classe, oui, moi je fais partie maintenant peut-être des vieux, je pense que la connexion en classe, pendant le cours, sauf à un moment donné où on serait tous ensemble sur un outil, mais la connexion permanente en classe est antinomique avec l'éducation.
Donc alors là, j'aurais une dernière question à vous poser et je vous demanderai d'être assez bref dans vos réponses parce que malheureusement le temps passe. C'est une question qui m'est inspirée, figurez-vous, par Heidegger et dans un texte absolument limpide. C'est assez rare chez lui, c'est rare pour être souligné. C'est une conférence qu'il a prononcée dans sa ville natale de Meskirch. Sérénité, Gelassenheit. Et il dit, alors, il faut pas monter à l'assaut tête baissée du monde technique. Il prévient l'objection qui pourrait lui être adressée de technophobie. Ce serait faire preuve de vue courte que de vouloir condamner ce monde comme étant l'œuvre du diable. Et il utilise un « en même temps ». Extraordinaire. Il y a un « en même temps » heideggerien qui précède le « en même temps » macronien. Nous pouvons dire « oui » à l'emploi inévitable des objets techniques, et nous pouvons en même temps lui dire non, en ce sens que nous les empêchions de nous accaparer, et ainsi de fausser, brouiller, et finalement vider notre être. Alors ma question, et la réponse ne doit pas être trop longue, est-ce que c'est une voie possible ? Dire oui, et en même temps dire non. Empêcher, par exemple, ce déni d'autrui dont vous parlez si souvent, Éric Sadin, provoqué notamment par le smartphone. On est là, on consulte ses fichiers, etc., ou on téléphone dans la rue, et l'autre n'existe pas. Il est frappé d'inexistence. Cette nouvelle forme d'incivilité que nous vivons, que nous expérimentons tous les jours. Alors, peut-on en même temps dire oui et en même temps dire non? Et est-ce que c'est vous? Est-ce que ce que vous faites, parce que vous êtes sans doute l'un et l'autre des usagers du numérique, Éric Sadin.
C'est exactement cela, dire oui et non. Alors, oui à quoi ? À un certain usage de l'accès, évidemment. Il ne s'agit pas de décrier l'âge de l'accès. Moi, je lis tous les jours des journaux, comme tant d'autres, des corpus sur Internet ou voir des films, enfin bref. Donc l'âge de l'accès, avec une mesure, il n'y a pas d'expression peut-être plus adéquate, une mesure raisonnable, il n'y a rien à dire sur cela. Enfin, il y a d'autres conséquences, mais on ne va pas... L'âge de l'industrie de la vie et du guidage ininterrompu de la vie, là, c'est même pas qu'il y a à dire non, c'est qu'il y a à trouver des modalités d'action. Et les modalités d'action, c'est pas de débattre continuellement, parce que la puissance aujourd'hui, elle est du côté de l'industrie numérique. Il y a une puissance de doxa, une puissance de développement industriel, de sophistication, de séduction aussi, par les objets, par les fonctionnalités. Donc ce à quoi je crois, moi, Quand Bruno Patino dit dans son livre, c'est une critique que j'opérerai, je l'ai lu avec plaisir, je pense à Les civilisations dans le bocal, qui dit il faut trouver des modèles alternatifs à l'intérieur même du monde numérique. Moi, je ne crois pas. Qu'il y ait des modèles alternatifs, c'est très bien, mais ça va absolument pas aller contre la machine surpuissante qui est en marche. Ce que je crois, moi, c'est qu'il est plus que temps de mettre en œuvre des modes d'existence et d'organisation alternatives.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qui visent de tout autre objectif que la marchandisation et l'hyperrationalisation intégrale de nos vies, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le champ du travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le soin. Et pour cela, moi j'en appelle, c'est de ce que je fais dans mon dernier livre, plutôt que l'idéologie du start-up où durant les années 2010, tous les investissements visaient à soutenir les start-up comme l'horizon économique et civilisationnel indépassable de notre temps, je crois qu'il faut soutenir tous les projets alternatifs fondés sur de toute autre valeur, l'équité entre les êtres et la protection de la biosphère. Et là, c'est un tout autre projet de société et de civilisation. C'est-à-dire, c'est dire non par la marge et en action et avec des modèles alternatifs qui se mettent en marche, qui se mettent
très
en
bien,
place.
Très bien. Alors, Bruno Patino, même question pour finir.
Moi, je suis entièrement... je ne connaissais pas cette phrase d'Heidegger, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est là où peut-être je suis un peu plus optimiste. C'est-à-dire que je pense en plus que c'est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans le moment, on est dans le moment où c'est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à échapper au calcul intégral et au jeu permanent, mais je pense que c'est à l'œuvre. Je pense qu'il y a plusieurs pistes. Les modèles alternatifs, c'est une des quatre pistes que j'évoque. Il y en a beaucoup d'autres, mais je crois vraiment à ça et j'essaye de raconter d'ailleurs. Un peu partout, les réflexions, les modèles ou les actions à l'œuvre, encore une fois, pour nous permettre d'avoir une vie acceptable et peut-être une vie bonne dans la société des données qui, de toute façon, fait suite pour moi à la société industrielle. Je ne m'en réjouis pas. Je le constate juste et je pense qu'effectivement l'œuvre humaine aujourd'hui et l'œuvre politique, ça vise à rendre cette société vivable. Voire peut-être mieux que vivable.
Mais c'est une belle conclusion en tout cas. Mais on n'a pas l'optimisme du progrès qui pouvait régner autrefois. Donc on prend acte d'un certain nombre de réalités sur lesquelles on ne peut pas revenir, dont il faut s'accommoder le mieux du monde, à moins évidemment, comme disait Éric Sadin, de trouver des modèles alternatifs. Alors je rappelle le titre de votre dernier livre, Éric Sadin, « Faire sécession, une politique de nous-mêmes ». Il est publié aux éditions de l'Échappée. Vous avez publié également « L'ère de l'individu tyran » chez Grasset. Bruno Patino, vos deux derniers livres, « La civilisation du poisson rouge » et « Tempête dans le bocal », la nouvelle civilisation du poisson rouge. Les deux livres sont édités chez Grasset. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La transformation de la France » avec Laetitia Strauch-Bonnard et Thierry Pêche. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Yvan Turc. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.